Ok. Je vous ai dit que chaque moment passé sur cette estrade devrait être une expérience pour moi. Donc j'imagine que pour vous c'est une expérience aussi. Donc ce soir encore, on va dire, laisse-moi arranger ça. Hier soir, j'ai vécu une expérience assez particulière devant la télé. Et ça m'a inspiré pour ce soir. Mais pourquoi tu rigoles déjà? Ça m'a inspiré pour ce soir. Ce soir, nous allons travailler sur quelque chose de très important pour l'adventisme, parce que l'adventisme est l'une des seules religions qui, je ne veux pas faire d'erreur, il me semble que c'est l'une des seules qui soutient cette idée-là. Et nous allons travailler sur ça. Je ne vous dis pas, vous allez découvrir tout à l'heure. En fait, si je peux dire, c'est sur l'état des morts. Nous allons travailler sur ça ce soir. Donc, je vous demande toute votre attention, parce que non seulement j'ai regardé cette émission, Mais j'ai fait ma petite enquête un petit peu pour savoir comment ici en France les gens voient la chose. Et il s'avère que ça devient très intéressant parce que lorsque j'ai regardé l'émission vous la connaissez, comme je sais que ça passe à la radio, donc j'ai pas envie de faire de pub pour cette émission non plus, mais je peux la dire, c'est paranormal. Ah non, il y aura pas de réaction parce qu'il faut être discret, on est à l'église, faut pas qu'on sache qu'on regarde ça, c'est ça? Ok, d'accord, moi je l'ai regardé. J'ai regardé votre programme hier soir, et fais monter mon frère. Et j'ai regardé ce programme ce soir, et lorsque j'ai regardé ce programme, je me suis dit, waouh, très intéressant. Et intéressant pourquoi, vous comprendrez tout à l'heure. Ensuite, lorsque j'ai fait ma petite enquête, j'étais au téléphone avec un ami aujourd'hui, on a discuté de ça, et il m'a permis de comprendre que ici, je disais que lorsque j'ai discuté avec mon ami, j'ai compris que c'est un problème en France. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que lorsque les gens sont morts, il se passe des choses. D'ailleurs, dans l'émission, ils expliquaient ça clairement. Apparemment, c'était une famille qui vivait dans une maison. Les meubles se déplaçaient et ils pensaient que c'était dû à une autre famille qui vivait dans cette maison parce qu'il y avait eu un drame et que ces gens-là persécutaient des gens et blablabla et blablabla et blablabla. Donc, je me suis dit, waouh, très intéressant. Sujet très intéressant puisqu'il faut que tout le monde comprenne une chose par rapport à cela. Et nous allons travailler avec la Bible. Mais vous savez, j'aurais pu faire une espèce d'étude biblique avec vous sur cela, mais je me suis dit non, ce sera trop lourd. On va faire quelque chose de beaucoup plus funny, quelque chose de beaucoup plus amusant. Donc on va utiliser une histoire biblique qui sera une illustration, mais qui derrière cette illustration que je vais utiliser ce soir, je veux que vous me suiviez attentivement, parce que derrière cette illustration que nous allons utiliser ce soir, cette histoire biblique, il y aura une vérité profonde à comprendre. Sommes-nous en phase? Ok? D'accord. Donc avant d'aller plus loin, nous allons prier. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Je vous invite à baisser la tête et nous prions. Notre Père et notre Dieu, je te remercie, Seigneur, de nous avoir accordé la vie ce soir, de sorte que nous puissions t'adorer encore, Seigneur. Père, nous passons un bon moment avec toi depuis samedi ou même vendredi soir, Seigneur, et nous te prions afin que tu nous accordes encore ton Saint-Esprit ce soir, Père. Chasse tout ce qui n'est pas de toi de ce lieu, Père éternel, et que tes anges y gagnent en maître, et que ta présence, Père éternel, soit au-dessus de toutes choses. Je me remets entre tes mains, de sorte que, Père, tu puisses me remplir de ton Saint-Esprit, et que je puisse parler en ton nom puissamment ce soir, Père. Que je puisse moi-même être instruit par ton esprit ce soir. Je remets cette assemblée entre tes mains afin que tous comprennent ce que tu as pour nous ce soir. Et qu'au sortir de ce lieu, nous puissions dire ensemble d'une même voix, le Seigneur nous a bénis. Au nom de Jésus, amen. Alors, le titre du sermon de ce soir est « Jésus a la réponse ». C'est quoi le titre ? Ou plutôt, Jésus est la réponse. On va mettre Jésus est la réponse, n'est-ce pas? C'est pas mieux? On chante, en plus, c'est le chantème, je crois, non? Jésus est la réponse. Allez, on va prendre le titre du chantème. Jésus est la réponse. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Jean, au chapitre 11. Il y a une histoire très intéressante ici qui sera notre illustration. Et je vous garantis sur facture que nous ne bougerons pas de ce livre. Mettez-le là, nous allons travailler entre Jean 10, Jean 11 et Jean 12. Nous n'irons pas plus loin. Maintenant, je vous demande votre attention, une fois que vous avez vu votre signet dans Jean 11. Il y a beaucoup de choses qui se disent à propos de la mort. Beaucoup de gens ont pas mal d'idées préconçues en ce qui concerne la mort. D'ailleurs, vous pouvez voir que des enfants ou même des personnes âgées, par exemple ma mère, lorsqu'elle va dans une cérémonie funèbre, c'est ça, elle ne s'approche pas du cercueil parce qu'elle ne veut pas voir la personne dans le cercueil. Puisque vous savez, en Martinique, nous avons toute une espèce de théorie, de coutume autour de la mort. Et par rapport à ça, elle ne veut pas s'approcher du cercueil. Et en Martinique, nous disons même aux enfants que fais attention parce que le mort viendra te tirer le pied ce soir, si tu n'es pas gentil. Et je me rappelle lorsque je devais avoir 11-12 ans, j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère, un oncle m'a même dit, il faudra faire une histoire de 9 jours de prière parce qu'il faut aider le mort à s'en aller. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ça, tu verras, à un moment ou à un autre, tu le verras dans un angle de la maison. Tu verras ta grand-mère dans l'angle de la maison ou des choses comme cela. Tu la verras apparaître le soir, elle sera debout là en train de te regarder ou des choses comme cela. Et je me suis dit, waouh, ça m'a fait peur. Vous saviez qu'à 12-13 ans, lorsqu'on m'a raconté cette histoire, je ne restais plus tout seul chez moi, parce que ma grand-mère vivait dans cette maison. Et donc je ne voulais plus rester tout seul, puisque, je n'ai pas envie de me retrouver face à ma grand-mère, alors que je sais que je l'ai enterrée il y a quelques mois. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et j'ai même un autre ami qui a vécu une autre expérience. Il a été visiter des membres de sa famille, je ne sais pas si c'est en Guyane ou en quelque part par là. Et lorsqu'il a été dans la maison, il y avait une histoire d'eau qui coulait durant la journée. Il s'est affolé, il a commencé à dire au propriétaire de la maison, « Ah non, il se passe quelque chose dans ta maison n'est pas claire. » Et le propriétaire, « Oh mais non, c'est papy qui passe nous rendre visite tous les jours, c'est pas grave. C'est papy, il vient, il fait ses affaires, ne t'inquiète pas papy, il fait ses affaires. » Et lorsque j'analyse tout ça, je me dis, « Waouh, il faut vraiment enseigner le peuple. » Le peuple a vraiment besoin d'enseignement. Osée nous dit que le peuple meurt faute de connaissance, chers amis. À cause de cette connaissance que le peuple n'a pas, le peuple meurt. Et on s'emprisonne, on s'enchaîne dans un tas d'idées préconçues. On s'empêche de vivre, on n'est pas libre alors que la Bible dit que nous sommes libres en Jésus-Christ. Et le pire dans tout cela, chers amis, je vais vous dire le pire dans tout cela. Alors que l'adventisme a une idée solide en ce qui concerne la mort. L'adventisme développe une théorie basée sur la parole de Dieu qui est solide. On ne peut pas revenir dessus. Et pourtant, vous avez des adventistes qui sont dans cette coutume. C'est ça le plus triste. Donc, maintenant, lorsque je regarde tout ça, je me dis, nous avons besoin de nous pencher sur ça. Nos visiteurs ont besoin de savoir ce que nous pensons de cela. Et nous allons travailler avec la Bible en main. Nous allons faire ça d'une façon, pas la façon d'une étude biblique où vous allez prendre tel texte. Je vous ai déjà dit, je ne fais pas de marathon biblique. Nous allons prendre un texte et nous allons travailler sur ce texte et vous découvrirez ce que je veux vous dire ce soir. On va faire ça bien, il y aura plusieurs points, mais le point important reste l'état des morts. D'accord? Donc maintenant, on va commencer avec le chapitre 11 au verset 1. La Bible dit, il y avait un homme malade. Un homme comment? Un homme comment ? Malade. Virgule, Lazare. Virgule, de Béthanie. Virgule, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc voici là l'auteur nous dresse le tableau. L'auteur nous dit qu'il y a des acteurs en jeu. La Bible nous parle d'un homme malade du nom de Lazare. Et la Bible aussi nous parle de deux femmes qui sont ses sœurs. Et la Bible nous dit qu'ils vivent à Béthanie. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le nom de Lazare est très intéressant. Lazare veut dire celui que Dieu aide. Généralement, les Juifs, lorsqu'ils choisissent un prénom, ils choisissent un prénom en fonction de ce que la personne a vécu ou dans la période où elle est arrivée. Si les parents passaient par un moment difficile, ils auraient pu appeler leur fils ou leur fille difficile. Est-ce que vous me suivez ? Si la mère était malade lorsque, très 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 malade et qu'elle perdait du sang, lorsqu'elle était enceinte, elle aurait pu appeler sa fille sang. D'accord? Maintenant pour Lazare, on voit que c'est celui que Dieu aide. Ça devient très intéressant parce qu'on peut imaginer que les parents ont peut-être vécu quelque chose avec cet enfant, peut-être que l'enfant avait eu un problème et que Dieu a permis que cet enfant reste là. Mais lorsqu'on analyse, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de Lazare, on voit que Dieu sait ce qu'il fait et que la chose va beaucoup plus loin que ça. Parce que ce sera vraiment celui que Dieu va aider. Mais allons, analysons la parole de Dieu. Deuxième point. On voit que Béthanie, c'est un mot hébreu qui veut dire maison de la souffrance ou de la douleur, mais aussi qui veut dire, vous savez, on va dire la maison du rendez-vous. House of date. On va traduire ça comme ça, la maison du rendez-vous. Ça devient très intéressant. Je suis en train de dresser les choses afin de construire ma maison avec vous ce soir. Suivez-moi bien, car là, nous mettons les choses en place. Nous mettons la fondation en place pour construire la maison. Donc, on a vu que Lazare veut dire celui que Dieu aide. Et on a vu que ce Lazare habitait où? À Béthanie. C'est un petit village qui était à 2700 kilomètres de Jérusalem. Donc, je vous ai fait un petit tableau ce soir pour que vous ayez une image de la chose un petit peu en tête. Alors, vous avez Jérusalem ici à 2 700 km. Vous aviez Béthanie. 2 700 km de Jérusalem. Suivez-moi bien. Maintenant, la Bible nous relate quelque chose qui va se passer ici à Béthanie. Mais il y a tout un ensemble de choses autour de cela. Et nous allons analyser la Bible en profondeur. Donc, au verset 2, la Bible dit, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya des pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc on voit que la Bible insiste pour bien nous montrer que c'est une famille apparemment unie. La Bible continue au verset 3 et dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, maintenant nous rentrons dans ce qui se passe ici, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Le mot ici pour M est philéo. Donc l'auteur veut qu'on comprenne bien qu'il y avait une relation profonde d'amitié entre Lazare et Jésus. Sommes-nous en face? Sommes-nous en face, chers amis? Yes. Donc il y avait une relation profonde entre Lazare et Jésus. Parce qu'il prend le mot philéo pour parler de cet amour. Donc c'était une amitié assez profonde. Et après avoir entendu cela au verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Ça ne vous gêne pas? Cette maladie n'est point à la mort. Donc, on a l'impression que Jésus n'est pas optimiste dans l'affaire. On dirait qu'il est un petit peu pessimiste. Parce qu'on lui dit, Lazare est malade, il dit déjà qu'il va mourir. Sommes-nous en phase? Alors, suivez-moi bien. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais, au verset 4, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Donc on voit bien que la Bible insiste sur cette relation entre ses frères et ses sœurs qui était solide et avec Jésus, cette relation avec Jésus. Donc on voit que c'était des gens qui avaient une relation solide avec Jésus. Et ça c'est important pour moi, soulignez-le. Donc on continue au verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Chose étrange. Je vous ai démontré à quel point ces gens avaient une relation solide. Et pourtant, lorsque on dit que Lazare est malade, Jésus même dit qu'il va mourir, et pourtant il reste 2 jours de plus. Il ne réagit pas, chers amis. Il ne réagit pas. Je vous garantis sur facture que serait été moi à cette époque-là. Je fais appeler un ami parce que je lui dis, regarde, nous sommes une bande de copains, mais nous avons un ami qui est mourant. Il faut que tu viennes. Lui reconnaît que l'ami va mourir. Et je lui dis, mais il faut que tu viennes. Mais au lieu de réagir, il reste encore 2 jours là où il est. Il ne vient pas. Qu'est-ce que vous auriez pu penser de cela? Hein? Que le philéo utilisé plus haut n'a pas vraiment de sens. Puisque ce n'est pas réellement un ami, puisqu'il ne réagit pas. Quelquefois, vous avez des amis, et vous auriez aimé que... Judée. Donc maintenant, on a l'impression que Jésus n'accorde aucune importance à ce qui se passe réellement dans la maison de son ami à Béthanie. Est-ce que nous sommes en phase? On a l'impression que pour lui, ça c'est rien. On a l'impression que pour lui, bon ok, Lazare était là, Lazare est mort, mais moi je suis toujours dans ma mission, arrêtez avec ça. Continuons. La Bible dit, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Les Juifs cherchaient à te lapider mais tu retournes en Judée. Ma grande question était, mais pourquoi les Juifs cherchaient à lapider Jésus? Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit ce texte, on est tellement focalisé sur la scène, tout ce qui se passe, tout ce qui se met en place, mais on ne se pose pas les bonnes questions qui nous permettraient de comprendre ce texte réellement pour ce qu'il est. Pourquoi? Mais pour comprendre le pourquoi, chers amis, il nous faut remonter dans le chapitre 10. Et lorsqu'on va dans le chapitre 10, on va voir plusieurs petites choses qui font que les Juifs ont réagi de la sorte. Par exemple, on va voir le verset 17 dans le chapitre 10. Jésus déclare devant des dirigeants, devant des pharisiens, devant des hommes en place. Jésus déclare, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus est en train, et nous verrons ça durant les deux semaines, Jésus est en train de dire qu'il est le bon berger. Donc quand Jésus dit qu'il est le bon berger, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que les hommes en place ont un problème, sommes-nous en phase? Donc déjà là, Jésus se met déjà dans une position délicate. Mais en plus, il rajoute, le Père m'aime, moi m'aime. Il tourne la chose sur lui. Donc on peut imaginer que les dirigeants qui sont là se disent, attends, il est en train de dire quoi là? Le Père l'aime lui et nous? C'est nous qui sommes en place, c'est nous qui faisons tourner le temple, il se prend pour qui lui? Donc on voit que ça crée déjà une division au niveau du peuple là. On continue. Et il dit, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Cet homme, c'est un homme, il est en train de dire qu'il donne sa vie et que lui va... Oula! Lorsque Jésus dit, je donne ma vie afin de la reprendre, Jésus se place dans la position de Dieu. Il est capable de donner sa vie et il est capable de se ressusciter tout seul, c'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, imaginez qu'un homme se mette debout devant vous et qu'il vous dise ce soir, ah ben moi c'est pas un problème pour moi la mort, hein. Moi je peux aller à la tombe et demain matin je me réveille. Qu'est-ce que vous auriez pu penser? Cet homme est fou! Vous n'auriez même pas écouté ce bonhomme est fou, chers amis. Ce bonhomme est fou. Donc vous comprenez que là, Jésus se met dans une situation délicate. Mais mon Jésus n'a que faire de cette situation délicate parce que lui est focalisé sur sa mission. Sommes-nous en face, chers amis. Donc il continue et il dit, personne ne me l'ôte. Et on sait que ce sont ces gars qui vont faire des plans plus tard. Mais il dit, personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, ouais, le mot est fort, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il dit encore de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous imaginez? Imaginez les dirigeants qui sont en face de lui, qui écoutent ce discours. Imaginez cela, chers amis. Et la Bible nous dit, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Donc on peut voir, les Juifs voyaient Jésus comme une espèce d'agitateur. Le bonhomme vient et déclare des choses qui met ces choses à mettre la division. Donc la Bible dit au verset vient, plusieurs d'entre eux disaient, il y a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Je suis sûr que si ça se produisait aujourd'hui, mon Dieu, l'église se serait vidée tout de suite après cela. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et on continue. D'autres disaient, ce ne sont pas des paroles de démoniaques, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc, on voit qu'il y a eu une division au niveau de cette nation. On continue. Alors, on voit que, alors qu'on célébrait la Pâque, Jésus descend là encore. Il continue dans sa mission, il descend là. On voit au verset 28, il dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et jamais personne ne les ravira de ma main. » Et il parle toujours de ses brebis, car nous sommes toujours dans cette parabole du bon berger, chers amis. Waouh! Parabole que nous étudierons ensemble durant les deux semaines. Waouh! Waouh! Jésus déclare quelque chose, il dit, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Vous imaginez les hommes à l'époque, aujourd'hui, nous disons que nous connaissons Jésus. Donc pour nous, ce n'est pas un problème lorsque nous entendons Jésus déclarer que lui donne la vie éternelle. Nous disons « Amen !» À Trinidad, il y avait une dame qui faisait un « Amen » qui durait une minute. « Amen !» Elle aurait été là ce soir, bon Dieu. Donc, vous comprenez que nous, pour nous, ce n'est pas un problème. Nous avons été enseignés, éduqués dans cela. Mais imaginez ces hommes qui entendent que Jésus dit à ce moment-là « Je leur donne la vie. » Pour eux, la personne qui donne la vie, c'est Dieu le Père. Comment ça se fait que ce bonhomme qui est né de Joseph et de Marie, qui a grandi dans le village plus haut, vienne dire que lui donne la vie éternelle à quelqu'un? Tu es de chair, de sang comme moi-même, tu es sorti d'une femme comme moi-même, et tu veux dire que tu donnes la vie éternelle à quelqu'un, mais tu es qui? Donc vous comprenez que par rapport à ce problème, Les choses devenaient, ça devenait chaud pour Jésus. Il fallait qu'il bouge. Il dit encore au verset 30, moi. Je ne sais pas si vous avez porté attention à cela. Je suis sur le moi, je de Jésus. Jésus dit encore, moi et le Père, nous sommes un. Alors là, c'est sujet pour la lapidation. Moi et le Père, nous sommes un. Alors que les Juifs ne veulent même pas prononcer le nom de Dieu le Père, vous avez un homme qui vient et qui dit, moi et le Père, nous sommes un. Et regardez comment ça se présente. Moi et le Père, même pas le Père et moi. Est-ce que vous suivez la chose? Est-ce que vous suivez là? Même pas le Père et moi. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit ça dans une nation qui ne veut même pas prononcer le nom de Dieu. Il trouve toute espèce de qualificatif pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Et vous avez un luberlu pour eux qui débarque et qui dit, moi et le Père, nous sommes un. Chers amis, il y avait matière pour que Jésus puisse prendre la poudre d'escampette. Croyez-moi. Donc il a fallu qu'il se déplace. Et la Bible continue, la Bible dit, au verset 31, « Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. » Jésus leur dit, regardez-moi bien, ils prennent des pierres pour lapider Jésus. Seigneur, on voit que Jésus dit, la Bible dit, Jésus leur dit au verset 32, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Donc au final, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce mec se moque de nous. Ce bonhomme se moque de nous. Attends, on est déjà en train de ramasser les pierres pour te tuer, et puis c'est comme s'il dit, attendez. Au fait, j'ai fait plusieurs bonnes œuvres. Pour laquelle vous me lapidez? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce soir, chers amis? Donc Jésus avait de vraies raisons pour fuir. Fuir, chers amis, fuir la Judée. Et c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons qu'il a fallu que Jésus s'en aille. Verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Quel était ce blasphème? Le blasphème est que Jésus déclare, et vous l'avez au verset 36, je suis le Fils de Dieu. Personne d'être là, mais moi, je suis le Fils de Dieu. Alors lorsque Jésus déclare ces choses, alors déjà qu'il fait des choses, ça nous met dans une situation compromettante, maintenant il arrive, il dit, je suis le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut, qu'on soit au chômage ou quoi? Comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis. Donc Jésus avait des raisons pour s'enfuir. Maintenant, verset 39 de ce même chapitre 10, la Bible dit, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Mais n'oubliez pas qu'on est en train de savoir, la grande question était, pourquoi il a fui? Maintenant, nous aurons un autre élément toujours dans le chapitre 10, on saura où était Jésus. On voit que, parce qu'il est important de savoir où était Jésus. D'accord? Oups, je me suis perdu. Voilà. On saura où était Jésus. La Bible dit au verset 40, Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain. D'accord? Donc, il a laissé la Judée, suivez-moi bien, on va illustrer la chose. Et il s'en alla au-delà du Jourdain. Au-delà, on peut imaginer, on peut comprendre, et on doit comprendre qu'il a traversé le Jourdain. Il s'en alla où? Au-delà du Jourdain. Suivez-moi bien. La Bible dit, il s'en alla au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Donc, où était Jésus? Au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait, et il y demeura. Et plus intéressant encore, beaucoup de gens vinrent à lui, et ils dirent, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui. Donc il était facile de trouver Jésus. La Bible nous dit que beaucoup crurent en lui. Ce qui veut dire que lorsque Jésus a laissé la Judée, qu'il est passé de l'autre côté, beaucoup de gens l'ont suivi là-bas. Beaucoup de gens l'ont rencontré ici. Il y avait un mouvement ici, puisque Jésus continuait son ministère ici. Donc lorsque, ici à Béthanie, l'ami de Jésus était malade, il était facile pour eux de localiser Jésus. Sommes-nous en phase? Facile pour eux de le trouver. Donc ils sont allés vers Jésus pour que Jésus revienne. Mais la chose intéressante, Jésus, lorsqu'il entend ça, ok, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord, il est mort, mais moi, mon objectif, c'est de retourner en Judée. Retournons à la Judée. Lorsque Jésus dit, retournons en Judée, dans la tête de Jésus, ce qu'il parle de Jérusalem. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Il faut qu'on soit au clair dessus. Il dit, retournons sur le territoire de la Judée. Mais dans sa tête, il pense à Jérusalem, parce qu'il faut qu'il redescende là. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je dis ça. Il faut qu'il retourne là, parce que c'est là que ça se joue. C'est là le centre même de la chose. Mais la chose la plus intéressante, c'est que lorsque j'analyse la carte, maintenant suivez-moi bien. Où est-ce que j'ai mis ça? Oups. Maintenant suivez-moi bien. Suivez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Lorsque j'analyse la carte, je suis en train de vous donner une méthode pour que vous puissiez vous enseigner vous-même. Et ça, c'est important. Ok, donc on imagine que Jésus est ici, puisque ici, nous avons la mer morte. Il est de l'autre côté du Jourdain. Maintenant, Jésus dit, retournons en Judée. J'ai une question pour vous. Lorsque vous regardez le territoire de la Judée, qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez lire d'ici? J'ai mis deux noms de villes. Quels sont ces deux noms de villes? Jérusalem et... Donc on comprend que Béthanie est en Judée. Sommes-nous en phase? On comprend que Béthanie est en Judée. Mais lorsqu'on lit le texte, l'auteur nous laisse clairement comprendre que les bonhommes avaient une petite confusion. Parce que pour eux, lorsqu'on lit le texte avec, et qu'on analyse en profondeur, on a l'impression qu'ils pensent que Jésus veut directement aller où? À Jérusalem. Mais Jésus ne parle pas encore. Il dit, retournons où? En Judée. Alors, du coup, les gars réagissent. Mais hé, hey, qu'est-ce que tu racontes là? On voulait te lapider dans ce territoire. Et tu veux retourner là-bas? Mais Jésus, mais tu es fou. Mais regardez-moi bien. Pour rejoindre Jérusalem, Jésus est obligé de passer par où? Par Béthanie d'abord. Il ne va pas faire un détour. Il est déjà là. Mais lorsqu'on lit la Bible, on a l'impression que Jésus n'a que faire de ce qui se passe à Béthanie et que tout ce qui l'intéresse, c'est de retourner ici pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chers amis? Mais Jésus a son plan, suivez-moi bien. La Bible dit, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs ont récemment... verset 9, Jésus répondit, regardez la réponse de Jésus. Voici la réponse, voici ce que disent les disciples, verset 8. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs ont récemment cherché à te lapider. Et tu retournes en Judée. On a l'impression que Jésus est en décalage. Verset 9. Jésus répondit. N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Qu'est-ce que ça veut dire broncher? Bronche. Qu'est-ce que la Bible entend par là? Il y a quelqu'un qui a une autre version ici? Trébucher. J'aime ça. Mais si j'avais dit broncher, tout le monde aurait pensé que c'est... Vous savez, en Martinique, on a coutume de dire, moi je suis venu, j'avais un compte à régler avec ce bonhomme, quand j'ai commencé à lui parler, il n'a pas bronché. Dans le sens où il n'a pas bougé. Est-ce que vous êtes en face? Est-ce que nous sommes en face? Dans le sens où il n'a pas bougé. Mais Jésus, lui, lorsqu'il dit broncher ici, il parle de trébucher. Est-ce que nous sommes en face? Il faut que ça soit clair. Donc, Jésus dit ici... Il n'y a-t-il pas 12 heures en jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. D'accord? On continue. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Il quoi? Redis-moi le mot, il trébuche. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas en lui. Donc Jésus est en train de dire clairement que, hey, si tu marches durant la journée pour faire ce que tu as à faire, tu pourras faire ce que tu as à faire parce que tu peux voir là où tu poses tes pieds. Mais si tu le fais durant la nuit, mon ami, tu ne vois rien, la lumière n'est pas en toi. Ce n'est pas toi qui dirige les choses. Tu n'es pas le maître du système solaire. Donc automatiquement, mon ami, tu trébucheras. Mais lorsqu'on analyse ça, on comprend, lorsqu'on va dans d'autres textes qui sont liés à ce texte, on comprend que Jésus est en train de faire référence à l'importance de la mission. Ça, nous sommes en phase. Jésus est en train de montrer à travers cette petite parole que la mission est tellement importante qu'il n'y a pas de temps à perdre. Alors, pendant que le jour est là, allons et faisons ce que nous avons à faire. Parce que, à un moment viendra la nuit. Et là, vous verrez, la chose ne sera pas pareille. Donc, pendant que le jour est là, faisons ce que nous avons à faire. Donc, lorsqu'on lit ça jusqu'à présent, on pense que, lorsque Jésus dit faisons ce que nous avons à faire, que ce qui se passe à Béthanie, pour le moment, dans la tête de Jésus, c'est pas encore ça. C'est ce qui se passe à Jérusalem qui est important. Mais on oublie que Béthanie est sur le territoire de la Judée. Donc lorsque Jésus dit, retournons en Judée, il n'a pas précisé où il va. Puisqu'il a dit, sur le territoire de la Judée. Sommes-nous en face, chers amis. On continue. Donc, on voit qu'au verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, puisqu'il ne comprenait pas, Lazare, notre ami, dort. mais je vais le réveiller. Mais intéressant encore, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Vous voyez le décalage qui est entre les disciples et Jésus? Cette histoire est vraiment intéressante pour ça. Ça nous montre vraiment le décalage qu'il y a entre Jésus et les disciples. Les bonhommes marchent avec Jésus, mais on a l'impression qu'ils ne comprennent pas la profondeur de Jésus. Alors, mais, et donc, Jésus est obligé de réagir. Donc après cela, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ici, nous avons en grec une forme de subjonctif. Et lorsque Jésus dit ça, Jésus est en train de dire que, pour sûr, Lazare sera réveillé. Il dort, c'est vrai. Mais croyez-moi, pour sûr, ce bonhomme sera réveillé. Mais il est mort, c'est vrai. Mais moi, Jésus, je te dis, pour sûr, ce bonhomme sera réveillé. Mais jusqu'à présent, les gars ne réagissent pas. Lorsqu'on a l'anglais comme ça, on ne voit pas l'importance de la chose. Mais lorsqu'on lit ce même passage en grec, chers amis, on voit, lorsqu'on analyse cette grammaire grecque autour de cette déclaration, on voit vraiment l'importance que Jésus donne à cela. Donc, à partir de là, les hommes auraient pu comprendre que quelque chose va se passer à Béthanie. Quelque chose d'important va se produire à Béthanie. Parce que lorsque, dans la forme, la façon qu'il a construite cette phrase, lorsqu'on va dans cette grammaire grecque, on comprend qu'avec ce subjonctif qu'il a utilisé, cette forme de subjonctif qu'il a utilisé, donc on sait que pour sûr, parce que l'accent est mis sur le résultat, pour sûr, ce bonhomme sera réveillé, chers amis. Donc Jésus continue, et il dit, Jésus, la Bible nous dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14, alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Il est mort. Lazare est mort, puisqu'ils ne comprennent pas. Il y a un décalage entre eux et Jésus. Verset 15, et à cause de vous, le « vous » ici est très intéressant, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Lorsque Jésus a dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, moi je me réjouis de ce que Marie et Marthe n'étaient pas là. Parce que si Marie et Marthe avaient entendu cette déclaration de Jésus, je pense que ça les aurait brisés. Je me réjouis que je n'étais pas là. Vous imaginez, vous êtes avec Jésus, vous voyez pour vous qu'il n'accorde aucune importance à ce qui se passe à Béthanie, alors que les disciples pour eux, Béthanie aurait pu être un endroit où ils seraient en sécurité parce qu'on veut déjà les lapider. Et Jésus pour eux, what? Et alors, pourquoi ne pas aller à Béthanie? Et Jésus est en train de faire toutes ces déclarations, toutes ces choses. Et Jésus dit, à cause de vous, afin que vous croyez. Mais ce vous ici n'est pas seulement pour les disciples. Parce que avec ce vous, Jésus fait référence à tout ce qui s'est passé avant au chapitre 10. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. À cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Le lui ici, c'est pour qui? Je jette un pavé dans la mare ce soir, d'accord? Le vous ici, c'est pour qui? Le vous ici, c'est pour Lazare. Donc, on comprend que toute la conversation jusqu'à présent ici tourne autour de qui? Autour de Lazare. Lorsque Jésus dit, allons vers lui, donc il parle de Lazare. Maintenant, pour les disciples, il est clair que Jésus a clarifié, Lazare est mort. Il est clair que maintenant que Jésus a dit, je vais le réveiller, quelque chose va se produire. Parce que là, maintenant, Jésus est clair. D'accord? Et il dit, allons vers lui. Regardez ce qui suit. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons afin de mourir avec lui. De qui parle-t-il ici? Ok. Vous avez compris ce que je dis? Il faut que je l'explique encore. De qui est-il fait mention ici avec celui lorsque Thomas l'emploie? Ok. On va pas mettre la confusion. On va continuer. Je vous ai dit, je jette le pavé dans la main, mais je vous ai pas dit que j'allais développer le pavé. Hein. Je jette le pavé dans la main. Ok, on avance. Donc, où est-ce que j'étais? Donc, il dit, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Le 4 ici est important. Le 4 ici est important, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, dans cette coutume juive, la coutume voulait que lorsqu'on enterre quelqu'un, on croyait que l'âme de la personne, ça nous rappelle quelque chose, hein. La culture, là, toute cette culture antillaise, africaine, hein, toute cette culture-là, l'âme, l'esprit qui vient dans la maison, n'est-ce pas mon frère? Et attends, son âme est encore là, il faut prier 9 jours pour que ça parte. Hein? Donc il pensait que l'âme de cette personne, que l'esprit de cette personne était encore autour de lui dans le tombeau. Mais après 4 jours, il disait que l'esprit de cette personne repartait, retournait vers Dieu. Ou je ne sais pas, il disait que cet esprit repartait. Mais en tout cas, que l'esprit n'était plus présent dans le tombeau. Sommes-nous en phase, chers amis. Donc, Jésus vient après 4 jours. Ce 4 ici est très important pour Jésus parce que là maintenant, vous comprenez que tout ce que Jésus a fait depuis le moment qu'il est passé de l'autre côté du Jourdain, c'était pour faire ressortir quelque chose d'important que nous ne tarderons pas à toucher. Donc, 4 jours. Jésus vient après 4 jours. Mais regardez bien, lorsqu'on est venu lui annoncer la nouvelle, il est resté 2 jours là où il était. N'est-ce pas? Ils ont discuté. Maintenant, il arrive et on lui dit, mais frère, ça fait 4 jours, monsieur est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort, Jésus. Et Marthe continue. Ah, là, là. Non, il est important pour moi de clarifier quelque chose. 4 jours, verset 18, merci. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, ce qu'on voit ici, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus pour Marthe et Marie pour consoler de la mort de son frère. Vous voyez ce qui se passe ici? Suivez-moi bien. Jésus a eu un problème ici. Il a dû fuir. Lorsqu'il a fui, il va au-delà du Jourdain. Ensuite, il décide, nous retournons en Judée. Les disciples qui ont vécu quelque chose de choquant pensent tout de suite, oh, on va retourner là où on voulait nous tuer. Parce que nous sommes en phase. Ils n'ont pas encore compris ce que veut faire Jésus. Ils n'ont même pas réalisé que pour retourner à Jérusalem, il faut passer par Béthanie. Donc ça donne cette impression que Jésus se moque de ce qui se passe à Béthanie. Sommes-nous en phase. Mais voilà que, à cause de la mort de Lazare, les gens qui sont ici à Jérusalem, qu'est-ce que la Bible nous dit? Béthanie est à 2 km 700 de Jérusalem. Donc ils ont marché et ils sont venus consoler la famille ici. Donc beaucoup de ceux qui étaient à Jérusalem étaient où à ce moment? À Béthanie. Suivez-moi bien. Donc beaucoup de ceux qui étaient ici étaient où? À Béthanie, chers amis. Et ça c'est important, comprenez-moi bien. Donc ici à Béthanie, nous avons Jésus qui débarque et nous avons ces mêmes bonhommes ici qui sont à Béthanie. Puisqu'ils sont montés pour faire quoi? Consoler cette famille. C'est une culture juive d'aller quand il y a un mort, il y a les pleureuses, il y a les gens, ils viennent, ils débarquent, et puis ils sont là. Ils soutiennent la famille un nombre de temps. Donc lorsque Jésus arrive, c'est tout, un bon nombre des juifs étaient à Béthanie. Suivons bien, chers amis. On continue. Donc lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, très intéressant, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils prêchent et touchent ce texte, disent que elle a en quelque part manqué de foi. Parce qu'elle a dit, oh, tu vois, elle a fait un reproche à Jésus. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Quand on est... Où est-ce que tu étais? Une sorte de reproche comme quoi que tu es notre ami. Ton ami est mort, tu n'es pas venu. Mais ici, vous avez un conditionnel. Il dit, ou elle dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La deuxième partie de cette phrase-là, où vous avez le si. Regardez bien ce que je suis en train de dire. Je vais expliquer ça d'une façon plus simple. Seigneur, si tu eusses été ici, donc si Jésus était là, son frère ne serait pas mort. Cette fille a la foi tellement en Jésus qu'elle croit que si Jésus était là, son frère ne serait pas mort. Donc sa façon de parler à Jésus n'a rien à voir avec le fait qu'elle lui faisait un reproche. Au contraire, elle reconnaît que si Jésus était là, il ne serait pas mort, parce qu'elle reconnaît que Jésus, d'ailleurs elle le dit plus bas, est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devait venir, chers amis. À quel moment quelqu'un qui n'a pas de foi peut-il reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que nous sommes en phase? Donc cette femme est en train de dire, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, parce que tu n'étais pas là. Il est mort, Jésus. Il est mort. Et on continue. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de foi, ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de foi, ça? Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Mmh. Mais elle, regardez jusqu'où va savoir sa foi. Oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera. Mais à la fin des temps, n'est-ce pas en ce que nous croyons? N'est-ce pas notre espoir aujourd'hui qu'un jour Jésus reviendra et que les morts en Christ ressusciteront, chers amis? Donc, ne me dites pas que cette femme avait un problème avec sa foi. Car elle croyait qu'au dernier jour, Jésus ressusciterait son frère, chers amis. Est-ce que nous sommes en phase, chers amis? Elle y croyait, chers amis. Elle était peinée parce que Jésus n'était pas là. That's it. Est-ce que nous sommes en phase? On continue. Jésus dit, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait, comment? Mort. » Ouh. Ça ressemble à ce qu'il disait au chapitre 10. Mais maintenant, retournons dans ce contexte. Qui se trouve ici à Béthanie avec eux? Les Juifs de Jérusalem qui sont descendus. Et ils entendent Jésus tenir le même discours. Parce que Jésus vend quelque part. Ils entendent Jésus tenir le même discours. Mais là, il y a quelque chose de différent. On continue. Jésus continue. Et il dit, allons plus bas. On va aller plus bas. On va voir ça lorsqu'il a rencontré l'autre sœur. Lorsqu'il a rencontré l'autre sœur a tenu le même propos que la première sœur. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc on voit bien que cette petite famille qui fréquentait Jésus et qui marchait avec Jésus, cette petite famille, sa foi était ancrée, enracinée, chers amis, en Jésus. Et c'est important pour moi de faire ce point ici. Sa foi, la foi de cette petite famille était enracinée en Jésus. La seule chose qu'il regrettait, c'était que Jésus n'était pas là. Point. Chers amis, ça me permet de faire un petit point vite fait. Lorsque Jésus n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Donc ça veut dire que lorsque Jésus n'est pas là, qu'est-ce qu'il y a? Nothing, rien, la mort. Est-ce que nous sommes ensemble, chers amis? Mais lorsque Jésus est là, nous avons la vie. Il en est de même pour chacun de nous assis ici ce soir, chers amis. Lorsque Jésus est dans notre vie, chers amis, nous avons la vie. Mais lorsque nous n'avons pas Jésus dans notre vie, qu'est-ce qui nous attend, chers amis? La mort, chers amis. Et Jésus est clair sur ce propos. Maintenant, permettez-moi de lousser un petit peu. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus dit, hé, emmène-moi là où il est. La sœur répond, mais hé, Jésus, il sent. Vous avez certaines versions, parce que le mot grec ici veut dire que c'est une odeur, mais vraiment que... Et c'est... Ouh, certaines versions traduisent ce mot par « il pue ». Sommes-nous en phase? Il y a-t-il un médecin dans la salle? Pas encore. Bientôt, Jean-Charles, tu as la foi. Ça veut dire que bientôt, un jeune ici va faire des études en médecine. Lorsqu'un homme est mort, chers amis... Vous voyez toute la technologie que nous développons autour pour permettre qu'il y ait la veillée funèbre pour les cultures qu'ils font. Dans ma culture, nous le faisons. Nous avons des cercueils qui ont des espèces de trucs qui gardent le corps en foi. Nous avons la morgue dans laquelle ils mettent le corps dans une espèce de coffre réfrigéré et tout cela. Il n'y avait pas ça à cette époque. Et en plus, dans la culture juive, ils enterraient le... Vous mourrez ce matin, l'après-midi, vous êtes déjà enterré. Donc on comprend que le système, le corps, tout ce système de... Aidez-moi pour ce mot, parce que j'ai toujours un problème avec putréfaction. J'ai un vrai problème avec ce mot, il faudra que je le répète. Putréfaction. Donc on voit que ce processus de putréfaction, merci, ce processus de putréfaction prend place. D'accord? Donc le corps commence à pourrir. Les choses se mettent en place. Le corps commence à sentir. Et là, après 4 jours, croyez-moi, ça puait. Mais maintenant, il n'y a pas que le corps qui puait. Permettez-moi de faire un point sur le fait que l'esprit, selon la coutume juive, l'esprit de Lazare n'est plus dans la tombe. Parce que nous avons dépassé les 4 jours. Donc l'esprit de Lazare n'est plus dans la tombe. Question. Où était l'esprit de Lazare? Où était l'esprit de Lazare? Mais la Bible va y répondre. Suivez-moi clairement et attentivement. Maintenant Jésus dit, parce que la Bible dit clairement qu'il était dans une espèce de grotte, devant laquelle il y avait une grosse pierre. Allez pour vous-même sur internet et regardez un peu comment étaient faits les tombeaux de l'époque. Il y avait la grotte, les hommes creusaient un petit peu, donc il y avait une espèce de petite descente. Donc lorsqu'ils faisaient rouler la pierre roulait dans cette espèce de descente. Pour ouvrir ça, c'est pas un seul Wilfried Pavila qu'il fallait. Yep. Pour ouvrir ça, il fallait des gros gaillards comme moi. Il fallait une bonne douzaine de gros gaillards comme moi pour pousser ça là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc toute l'attention est attirée sur ce qui se passe là. Il y a du mouvement. Vivez la scène avec moi, chers amis. Il y a du mouvement. Les gros gaillards comme Wilfried Pavila sont là en train d'essayer de pousser cette pierre. Ils poussent cette pierre. Mais lorsqu'ils ont bougé la pierre, qu'est-ce qui se passe? Oh, my gosh. Oh. Comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le premier geste que vous ferez, c'est protéger votre nez, chers amis. Mais si vous avez déjà pris l'odeur d'un cadavre, vous allez comprendre qu'un tissu ne suffit pas. Permettez-moi celui-là. Je peux même imaginer des juifs prenant leur turban pour essayer de camoufler la chose. Comprenez ce que je suis en train de dire? Mais maintenant, il se produit une chose. Les hommes sont en train d'observer cela. La personne ne peut dire que Jésus est un charlatan. Parce que si vous lisez au sujet des miracles de Jésus, vous verrez que les hommes de l'époque pensaient que Jésus était un charlatan. Ils pensent que Jésus était comme certains hommes d'aujourd'hui. Alors je vais aller voir mon petit frère qui est ici. Je vais lui dire dans les rues de Paris, « Hey frère, tu sais quoi? J'ai une église à Montreuil, là, à Marichy. Alors écoute, tu as besoin d'argent. Hein? Mm-hmm. Je te donne 500 dollars. 500 euros. Lorsque je vais te donner ces 500 euros, tu viendras à l'église. Mais il faut que tu viennes avec une canne, quelque chose. Tu comprends? Il faut que tu marches d'une certaine façon. Mais tu vas t'asseoir au fond parce qu'il faut que toute l'église te voit traverser l'allée comme cela. D'accord? Mais je te donne 250 avant et 250 après. Si le plan foire, tu n'auras que 250. Ok? Donc, on fait comme ça. Donc, monsieur arrive, il s'assied au fond. Et puis, lorsque le pasteur commence à faire son truc, il arrive devant. Oh, pasteur! Oh! Je souffre, ça fait 20 ans. Et puis le pasteur qui vient. Boum! Et puis il commence à danser. Alléluia, praise the Lord. Il est guéri. Tout le monde dit Alléluia. Alléluia, Dieu est dans ce lieu. Alléluia. Il pensait que Jésus était ce type de charlatan. Que tout ce que Jésus avait fait n'était que business sur business. Tout ça pour attirer l'attention sur lui. Donc Jésus, lorsqu'il faisait toutes ces choses, remettait les pendules à l'heure. Surtout que, rappelez-vous, on voulait le lapider pourquoi? Parce qu'il avait dit, je suis celui qui fait quoi? Qui donne la vie. Et non pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Il dit encore, moi et le Père, nous sommes un. Il dit encore que le Père est lui, que le Père lui a donné la possibilité de faire ces choses. On a voulu le lapider pour ça. Et les mêmes hommes qui étaient là, étaient où? À Béthanie. Donc lorsque Jésus a dit ici, retournons en Judée, le plan de Jésus a toujours été Béthanie. Sommes-nous en phase? Le plan de Jésus a toujours été Béthanie. Parce que à Béthanie, Jésus aurait répondu à ces bonhommes. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on commence le chapitre, Jésus dit quoi? Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Ça faisait partie du plan de Dieu, chers amis. Lorsque vous avez vu, lorsque vous lisez vos Bibles, vous lisez souvent comme il fallait qu'il passe par là, n'est-ce pas? Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, comme il fallait qu'il passe par tel endroit. Mais pourquoi comme il fallait qu'il passe? Ce comme il fallait qu'il passe nous laisse entendre que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, suivait un itinéraire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait un plan divin derrière cela. Jésus n'a rien fait par hasard. Ce qui confirme que la mort de Lazare faisait partie de ce plan divin. Donc lorsque Jésus déclare que cette maladie n'est point à la mort, mais à la vie, cette maladie n'est point à la mort, mais à la, pour la gloire de Dieu, Jésus sait de quoi il parle. Mais les disciples n'avaient pas compris, parce que pour eux, allons en Judée rime avec Jérusalem. Mais allons en Judée pour Jésus rime avec let's go down to Bethany. Allons à Bethany. Parce que Bethany, pour lui, devenait la réponse à ses détracteurs. Parce qu'à Bethany, il y avait cette illustration vivante avec Lazare, chers amis. Et personne ne pouvait dire qu'il était un charlatan parce qu'il pouvait le sentir. Il est mort. Il est dans le cadavre, chers amis. Yep. Plus intéressant encore, lorsque Jésus dit, Lazare, sort. J'ai une question pour vous. Où était Lazare? Où était Lazare? Mais non, mais je croyais que les morts allaient au ciel. Les morts ne vont pas au ciel? Ils vont pas au ciel? Vous êtes sûr? Alors laissez-moi vous dresser un tableau. J'imagine Lazare au ciel avec les anges. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Et puis l'entend Lazare. Redescends. Dites-moi, vous auriez redescendu? Moi, j'aurais regardé Jésus, j'aurais dit, tu es fou. Je redescends là pour quoi faire? En bas là, c'était la souffrance, c'était la maladie. Ici, on loue le Seigneur toute la journée. Hallelujah, praise the Lord. Comment est-ce que je suis en train de dire, chers amis? Donc je vous repose la question, où était Lazare? Dans la tombe, chers amis. Nulle part ailleurs que dans la tombe. Est-ce qu'il a dit, Lazare, sors! Et puis on a vu Lazare arriver de chez lui. Puisque souvent ils disent que le mort retourne chez lui. On a vu Lazare arriver dans le dos de Jésus. Ah, merci Jésus, je suis venu. J'étais à la maison là, je voulais faire peur à mes soeurs, mais bon, comme elles sont parties avec toi, j'ai pas eu le temps. Non, chers amis, la Bible est claire. Lazare est sorti d'où? De la tombe. Donc on peut imaginer, chers amis, que ce processus de putréfaction, it's good? Ah, je l'ai. Que ce processus de putréfaction est reparti en sens inverse. Ah! Le cœur a recommencé à battre, le sang a recommencé à circuler, les choses se sont remises en place, le ventre a dégonflé, mon ami. Toutes les choses se sont remises en place, mon ami. Et puis regardez la chose. Il avait les bandelettes. Il aurait pu dire, Jésus, je peux pas, parce que j'ai les bandes. Mais non, au contraire, Lazare a trouvé une solution pour sortir de là, se lever et puis sortir de ce tombeau, parce que Jésus l'appelle, chers amis. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Bien souvent, nous avons toutes sortes d'excuses lorsque Jésus nous appelle. Mais mettez-vous à la place de Lazare dans un tombeau avec des bandes et Jésus lui dit, Lazare, sors! Sors, Lazare! Il a trouvé une solution avec ses bandeaux. Le pire, c'est que dans un cours de Biblical Background, je me rappelle, on nous avait montré une image du tombeau de Lazare de l'époque. Et laisse-moi vous dire une chose, la chose était exiguë, c'était un petit truc. Il fallait pas s'appeler Wilfried Pavila pour entrer là. Il a trouvé une solution avec ses bandes pour descendre de là où il était. Trouver une solution pour monter la première partie des marches, trouver une solution pour tourner, pour monter la deuxième partie des marches, et pour sortir. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Parce que Jésus, dans sa tête, a un objectif. Vous, allez lui enlever les bandes. Et permettez-moi un petit point. Vous imaginez, le bonhomme était en pleine putréfaction. Donc on peut imaginer que les bandes étaient souillées, n'est-ce pas? Sommes-nous en phase? Les bandes étaient souillées, n'est-ce pas? Donc lorsque Jésus te dit, mon ami, va lui enlever les bandes, tu vas lui dire quoi? Mais tu es fou. Mais tu es fou. Mais lorsque les bonhommes ont vu ça, les bonhommes sont tellement sur leurs affaires là, c'est pas possible qu'ils aient pu faire quelque chose comme ça. Ils n'ont pas d'autre solution que d'y aller. Parce qu'il fallait qu'ils touchent par eux-mêmes. Il fallait qu'ils voient par eux-mêmes que c'était réellement le Lazare qu'ils avaient vu. Pour le Lazare qu'ils avaient pleuré. Celui qu'ils avaient enterré. Il fallait qu'ils le touchent. Le miracle était tellement puissant que même les bandes, chers amis, même les bandes ont retrouvé leur forme initiale. Amen. Plus d'odeur, rien. Plus de souillure. Jésus est bon, chers amis. Amen. Plus de souillure, rien. Et puis ils sont là et ils ne pouvaient que constater que ce Lazare était réellement vivant. Aussi vivant qu'eux étaient vivants, chers amis. Et là, la chose prend place. Parce que tous ces hommes, tous ces détracteurs qui étaient à Jérusalem, ne pouvaient que constater que, hey, ce bonhomme a dit la vérité. Ce bonhomme a dit la vérité. Il a le pouvoir de donner la vie. Il a le pouvoir aussi de la redonner. Ce bonhomme a dit qu'il était la résurrection de la vie. C'est vrai. Est-ce que nous sommes en phase? Est-ce que nous sommes en face, chers amis? Mais maintenant, je veux que vous reteniez une chose ce soir. Lazare était réellement mort lorsque Jésus alla appeler les sorties de la tombe. Et comme la Bible s'explique par elle-même, que nous dit le livre de Corinthiens, si mes souvenirs sont bons, il dit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Mais s'ils sont au paradis, alors ça veut dire qu'ils sont au paradis, et puis que lorsque Jésus va revenir, Jésus va faire toute une mise en scène. Bon, les gars, vous savez quoi? Vous allez redescendre dans vos tombeaux, et puis lorsque je vais arriver, au moment où je vais arriver, vous allez entendre la trompette. Et quand vous allez entendre la trompette, vous allez sortir de vos tombeaux. On fait ça? Business? On a un deal? Yep. Vous voyez Jésus comme ça, chers amis? Non, chers amis. Non! Non, chers amis. Alors on doit comprendre une chose. Lorsque Salomon nous dit que les morts ne savent rien, ils n'ont aucune œuvre, chers amis. Il sait de quoi il parle. Lorsqu'on est mort, on est dans ce cercueil, on va dans la tombe, chers amis. Comme Jésus dit, on va dormir. Donc, si un jour, Édouard vit avec vous, et puis qu'Édouard est mort, et puis que le soir, vous rentrez à la maison, vous allez vous coucher, qu'Édouard est couché à côté de vous, comme toi, comme vous là, s'il meurt, et puis que le soir tu dis, oh, je l'aime. Et puis tu es couché sur le lit, et puis il te dit, mais mon amour, je suis là. Cours! Cours! C'est pas lui qui est là! Cours! J'ai entendu une chose qui s'est passée au Mexique. C'est exactement l'histoire que je vais vous raconter, que je viens de citer. Une femme qui a perdu son mari, mais vous savez, au Mexique, dans les campagnes, le mari est important parce qu'ils vivent de la culture, ils vivent d'un tas de choses, c'est des terres, c'est des choses comme ça. Et chacun a son rôle. Lorsque son mari était mort, sa vie était difficile. Et un soir, elle a dit, oh, si je pouvais la voir encore à la maison. Et puis elle entend, mais mon amour, je suis là. Et elle a regardé, elle a dit, au nom de Jésus, arrière de moi. Et elle a dit, ah, je croyais que tu avais besoin de moi, au nom de Jésus, arrière de moi. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Parce que ce n'était pas son mari. Cette femme connaissait sa Bible et elle savait que ce n'était pas son mari, chers amis. Parce que lorsque vous étudiez vos Bibles, chers amis, vous savez que ces êtres déchus peuvent prendre les apparences de vos bien-aimés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'un mysticisme. Toutes ces espèces de choses où vous allez dans des pièces et puis là, il y a-t-il une Carole dans la salle? Ah, Carole, j'ai un message pour toi de ta grand-mère qui te dit que de ne pas t'inquiéter, ton problème sera réglé. Ta grand-mère quoi? Ta grand-mère est couchée, elle est en train de pourrir, elle a fait de la poussière là, elle va te dire quoi? Depuis quand la poussière peut parler? Réveillez-vous, chers amis. Les morts ne savent rien, nous dit la Bible, chers amis. Ils n'ont aucune œuvre, ils n'ont aucune part, aucune œuvre sur cette terre, chers amis. Donc si un jour vous voyez votre oncle qui est décédé, ça fait 20 ans, chassez-le au nom de Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas lui. Donc on comprend que lorsque Jésus a accompli cette œuvre, Jésus a voulu montrer clairement qu'il n'y a pas d'âme qui traîne dans le tombeau 4 jours pour partir je ne sais où. Donc, cette histoire de, ça me rappelle Tetzel. Je ne sais pas si vous connaissez un homme qui s'appelait Tetzel. D'ailleurs, lorsque c'était à l'époque où comment il s'appelle, il avait écrit ses thèses qu'il avait collées sur l'église. Tetzel disait que si tu veux que ton ami sorte et arrête de souffrir dans le purgatoire, il faut mettre une petite pièce. Et aussitôt que la pièce a touché le fond de la boîte, oups, il sortira du purgatoire. Et puis, croyez-moi, il a fait son beurre comme ça, mon ami. Il a fait son beurre comme ça. Alors, au lieu, toi qui es vivant, tu pleures pour toi, pour ton âme, pour savoir comment tu seras avec Dieu, tu es en train de dépenser ton argent pour quelqu'un qui est en train de faire de la poussière. Et justement, Martin Luther, l'un des pères du protestantisme, Martin Luther a réagi par rapport à cela. Il a réagi par rapport à toute cette théologie, chers amis, qui perdait les hommes. Il a mis ses 95, je crois, thèses sur cette église. Pour aider le peuple à comprendre, chers amis. Ou, je dirais même mieux, pour aider le peuple à sortir de cette manipulation. Est-ce que vous êtes avec moi, chers amis? Donc nous devons comprendre, chers amis, que Jésus ici voulait que son peuple comprenne une chose. Que toute cette tradition, chers amis, ne tient à rien, mais qu'il faut être focalisé sur lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est ce chemin qui mène à la vérité. Il est cette vérité qui mène à la vie. Et le peuple devait comprendre cela, chers amis. La Bible nous dit que ce jour-là, au verset 53 du chapitre 11, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Dès ce jour, les autorités résolurent de faire mourir Jésus. Pourquoi ? Sa notoriété aurait été trop grande. Au lieu d'accepter la vérité, yep, ils ont fait comme nous. Au lieu d'accepter la vérité, ils ont cherché toute espèce de prétexte pour fuir loin du Christ. Est-ce que vous me suivez ce soir, chers amis? Donc nous comprenons une chose, chers amis. Toutes les réponses à ces questions sont dans la parole de Dieu. Ne laissez personne vous couillonner sur l'état des morts. La Bible dit les morts ne savent rien. Lazare, lorsqu'il était couché là, Jésus a dit quoi qu'il dort. Il dort, chers amis. Lorsque vous dormez, vous savez quelque chose? Vous ne savez rien. Je vais attendre que le pasteur d'Ording dorme. Je vais venir le voir, je viendrai à son chevet pendant qu'il dormira. Je lui dis, bon pasteur, on fait une étude sur l'Apocalypse. Alors, prends ta Bible dans Apocalypse 12, et je imagine comment il va me répondre. Ensuite, on prendra Apocalypse 11, il va vous répondre. C'est normal! Comment peut-il prendre sa Bible et prendre Apocalypse 12 ou Apocalypse 15? Ou encore, vous avez d'autres qui vous disent qu'ils viennent et qu'ils leur disent ce qui va se passer bientôt. Mais il est mort! Vous n'avez pas remarqué une chose? La personne meurt à 10 heures. Le temps qu'on utilise lorsqu'on parle, c'est l'imparfait. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va dire, il est beau. Si tu sors de cette église et que tu tombes sur le sol et que tu meurs, lorsqu'on va discuter, on va dire, il était beau. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors comment toi, tu peux venir me voir le soir pour me dire ce qui va se faire dans le futur, puisque tu fais partie du passé? C'est pas possible, chers amis. Réveillons-nous. Ne laissons pas les gens nous duper. Réveillons-nous, chers amis. Mais rien de tout ça n'aurait pu prendre place. Rien de toute cette illustration n'aurait pu prendre place. Si une chose avant, la chose la plus importante n'avait pas pris place. Retournons au chapitre 11 et au verset 3. Le verset 3 dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Si Lazare n'avait pas cette relation avec Jésus, si Lazare n'était pas celui que Jésus aime, Jésus n'aurait pas pu utiliser Lazare pour faire comprendre aux hommes cette profonde réalité qu'il est, le chemin, la vérité et la vie, chers amis. Donc, si Lazare n'avait pas eu cette relation avec Jésus, Lazare n'aurait pas pu être celui qui était au centre même de l'enseignement du Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Chers amis, si vous n'avez pas de relation avec Jésus aujourd'hui, comment pouvez-vous espérer que lorsqu'il reviendra, il puisse dire, Wilfried, mon ami, sors! Non, mais si vous avez cette relation avec Jésus, si vous avez votre Jésus et que vous fonctionnez avec lui, Jésus mange avec vous, il dort avec vous, il parle avec vous, il marche avec vous. Donc lorsqu'il reviendra, chers amis, il dira, Pasteur Dowding, viens! Parce que Pasteur Dowding a marché avec lui. Il connaît Pasteur Dowding. Parce qu'il a été précis. Lazare, celui que j'aime, celui avec qui j'ai une relation, toi, viens. Est-ce que vous me suivez? J'imagine qu'après cette expérience, cette famille était contente parce que peut-être qu'ils n'avaient pas compris ce que Jésus faisait. Mais après, ils ont dû dire, merci Jésus de nous avoir choisis. Et j'imagine Jésus de leur dire, non, je ne vous ai pas choisi. C'est vous qui m'avez accepté dans votre vie. Et parce que vous m'avez accepté dans votre vie, j'ai pu fonctionner avec vous. Mais si tu ne m'acceptes pas dans ta vie, je ne peux pas fonctionner avec toi. Donc au jour où je reviendrai sur cette nuée, je pourrai dire, Wilfried, viens, parce que j'ai eu une relation avec Wilfried. Je pourrais dire, Pasteur Dowding, viens, parce que j'ai eu une relation avec Pasteur Dowding. Mais comment pourrais-je dire, Eric, viens, si je n'ai eu aucune relation avec Eric? Comment pourrais-je dire, Sylvain, viens, si je n'ai eu aucune relation avec Sylvain? Pour que je puisse dire, Sylvain, viens, il aurait fallu que je puisse manger avec Sylvain, boire avec Sylvain, que Sylvain puisse m'ouvrir la porte de son cœur. Que nous ayons ce filet entre nous. Cet amour profond, car Jésus lui-même a dit, quel bonheur c'est de mourir pour des amis. Ce filéo, ami. Donc maintenant que son ami est mort, chers amis, il a pu utiliser son ami pour cette grosse illustration pratique, afin que tout le monde comprenne qui il est. Mais, s'il n'avait pas cette relation avec Lazare n'aurait pas pu être celui avec lequel Jésus aurait travaillé pour démontrer ce qu'il avait à démontrer. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Chers amis, un jour Jésus reviendra. Yep. Je vous ai donné le texte tout à l'heure. Un jour, à la voix d'un archange, les morts en Christ. Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Les morts en Christ. Les morts, ceux qui ont eu une relation avec Jésus, ceux qui sont des Lazare, des hommes qui invitent Jésus dans leur maison, des hommes pour qui leur sœur cuisine, des hommes qui mangent avec Jésus, des hommes qui vivent avec Jésus, des hommes qui font tout avec Jésus, qui marchent avec Jésus, des hommes qui parlent avec Jésus, chers amis. Ces hommes-là ressusciteront, chers amis. Et l'objectif est là. Que nous puissions devenir ces Lazare. Lorsque nous serons ces Lazare sur terre aujourd'hui, nous n'aurons plus peur de la mort. Parce que nous saurons que nous avons un ami au ciel. Et qu'un jour il reviendra. Et il nous appellera par notre prénom. Je n'ai pas dit le nom. Par notre prénom. Lazare. Viens. Wilfried, viens. Voulez-vous être de cela, chers amis? Voulez-vous être de cela, chers amis? Alors pourquoi ne pas vous lever, chers amis? Pourquoi ne pas vous lever, chers amis? Pourquoi ne pas vous lever, chers amis? Maintenant, je vais faire un appel. Alors que le pasteur Dowding me rejoint, nous travaillons ensemble. Je vais faire un appel. Et j'aimerais appeler quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus, se reconsacrer au Seigneur. Quelqu'un qui aimerait devenir un Lazare sur cette terre, afin que lorsque le Seigneur reviendra, le Seigneur puisse l'appeler, et l'appeler par son prénom, et lui dire quoi? Viens. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent, le Seigneur est amour. Et ils se cachent derrière toute cette philosophie destructrice. Oui, Dieu est amour. Mais ils se cachent derrière toute cette philosophie destructrice et ne prennent aucun engagement avec le Seigneur. Ils ne s'engagent dans rien avec le Seigneur, parce qu'ils se disent, Dieu est amour. Mais cette théologie est grave, parce que vous avez un groupe qui prêche cette théologie, la théologie de la deuxième chance. Nous disons que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, vous voyez clairement que cette théologie ne tient pas la route. Donc lorsque nous disons, Dieu est amour, je peux aller en club, Dieu est amour. Je n'ai pas besoin d'être baptisé, pasteur. Dieu est amour. Je n'ai pas besoin de ces choses parce que Dieu est amour. Vous faites fausse route. Parce que le Seigneur a mis des choses en place. Et nous devons fonctionner selon ses principes. Nous ne sommes pas Dieu. Lui est Dieu. Nous sommes ses créatures. Il y a une chanson en anglais qui dit « Trust and obey ». Trust and obey. Et quand c'est de la... Trust and obey. Il n'y a pas d'autre façon. Fais-lui confiance et obéis. Fais-lui confiance et obéis. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon, chers amis. Lazare a fait confiance à Jésus. Vous voyez comment ses soeurs ont parlé? Je crois que tu es le Fils de Dieu. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Trust and obey. Faites-lui confiance et obéissez-le, chers amis. Et le résultat ne sera pas différent que celui de Lazare. Mon ami, viens. Viens. Yep. Donc ce soir, je vais faire cet appel pour quelqu'un qui aimerait reconsacrer sa vie au Seigneur. Quelqu'un qui veut faire partie de ceux qui ressusciteront au dernier jour. Yep. Qui pourront marcher avec le Seigneur. Car Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, chers amis. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a-t-il une autre personne qui veut les rejoindre? Il y a-t-il une autre personne qui veut les rejoindre? Il y a-t-il une autre personne qui veut les rejoindre? Il y a-t-il une autre personne? Que Dieu vous bénisse.
Jésus,
il vient pour te
consoler.
Il y a-t-il une autre personne? Il y a-t-il une autre personne qui veut les rejoindre? Maintenant, je m'adresse à ceux qui nous visitent. Peut-être qu'ils viennent ici pour la première fois, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Peut-être qu'ils ont l'habitude de venir ici et de suivre le culte. Je m'adresse à vous ce soir. Jésus, son souhait, c'est d'être votre ami. La seule chose qu'il désire, c'est d'être votre ami. La Bible dit clairement que la volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés. Vous voyez l'amour du Seigneur, chers amis? La volonté de Dieu, c'est que, combien? 1, 2, 3, 8, tous nous soyons sauvés. Jésus aimerait avoir une relation avec vous, chers amis. Arrêtez de fuir le Seigneur. Arrêtez de fuir le Seigneur. Arrêtez de trouver toutes sortes d'excuses pour fuir le Seigneur. Nous voyons aujourd'hui que le monde va mal, les choses vont mal. Ceux qui étudient leur Bible savent que nous savons que Jésus est à la porte. Parce qu'il voulait, il met des choses en place afin de vous appeler. Parce que son souhait, c'est qu'à la fin de toutes choses, il puisse dire, Lazare, sors. Sors. Donc, il y a-t-il une personne qui vient ici pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, qui aimerait répondre à cet appel afin que nous puissions prier avec elle ou il? Je t'invite à sortir des reins et à venir. C'est une histoire entre toi et Dieu, alors que le pasteur me rejoint déjà. Une histoire entre toi et Dieu. Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais viens et nous prierons ensemble. Tu es prêt? Faites encore une strophe et nous allons prier après. Encore une strophe et nous prions après. Vous avez encore le temps, répondez à cet appel, chers amis.
Soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer.
Prions. Père, tendre Père, éternel Dieu, celui qui détient la vie, Créateur de l'univers, celui qui nous aime tant. Père, nous voulons nous adresser à toi en ce soir, déjà pour te dire merci. Merci pour la vie que tu nous accordes. Père, merci pour Jésus-Christ qui nous enseigne, qui nous donne la vie. Ô Père éternel, nous voici dans ta maison. Cette maison n'est plus la maison des pauvres, mais c'est la maison de tes enfants. Les enfants du roi, le roi de l'univers, et nous sommes tes amis. Père éternel, pardonne-nous de nos manquements. Pardonne-nous de nos fausses routes. Pardonne-nous d'avoir négligé ton cadeau de la vie éternelle. Et accorde-nous ta grâce, tant de Père. Justifie-nous dans notre petite foi. Et éclaire-nous encore par ta parole. Débarrasse-nous, tant de Père, des chaînes de la superstition. Ô Père éternel, débarrasse-nous des chaînes du spiritisme et place-nous sous la lumière de ta parole. Et permets, tant de Père, que notre foi soit entièrement en Jésus-Christ. Père, nous te remercions, car nous savons qu'un jour, Père, un jour, si nous mourons, tu nous appelleras. Tu nous appelleras à la vie éternelle. Et c'est pour cela, Père, que des personnes se sont déplacées pour exprimer leur foi en ta parole. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de te manifester dans leur vie. Visite-les, Père. Découvre tout ce qui est caché. Et met ta lumière, tant de Père, dans leur vie. Purifie, nettoie et donne-leur la joie, la paix et la confiance en toi. Père, encourage tes enfants qui ont pris le pas vers toi par la foi. Scelle leur engagement. Réponde à leurs questions. Et tant de Père pour notre peuple, nos amis, membres d'église, nos sympathisants, que désormais, tant de Père, nous soyons libérés de nos traditions. Dans le nom de Jésus-Christ, que personne, plus personne, ne soit enchaîné dans les traditions culturelles. Que plus personne n'ait peur de la mort, mais que chacun sache que nous sommes morts lorsque nous sommes morts. Il n'y a plus rien. Et nous attendons tous dans le tombeau la voix du Seigneur. Père éternel, bénis tes jeunes qui traversent la vie difficile, tes jeunes qui viennent à l'église jour après jour, sabbat après sabbat. Ceux qui sont attirés par les traditions de ce monde, délivre-les, les temps de Père. Ramène-les, temps de Père. Cours après eux, temps de Père. Et que ton esprit les convainque de te dire oui, temps de Père. Béni soit ton Saint-Nom. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.